VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. 17 militants pro-démocratie arrêtés le 1er novembre ont été remis en liberté provisoire dimanche en République démocratique du Congo. Les 17 militants sont poursuivis pour trouble à l'ordre public et désobéissance civile. Ils ont été détenus à la prison centrale de Makala à Kinshasa, où ils avaient refusé de s'alimenter pour demander leur liberté. Ils ont été interpellés alors qu'ils participaient à des actions d'éducation civique et électorale à l'approche de la campagne pour les élections présidentielles, législatives et provinciales du 23 décembre prochain, qui commence officiellement ce jeudi. Toujours en République démocratique du Congo, non, nous sommes plutôt dans le pays voisin, la République du Congo. Grève depuis 3 mois à l'université Marienne Ngouabi à Brazzaville. C'est la seule université publique du Congo et elle est fermée depuis ce débrayage des travailleurs qui estiment aujourd'hui que le gouvernement ne se préoccupe pas de leur sort. Reportage Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Depuis 2 mois et demi, Bayardel, à la faculté de lettres et des sciences humaines, un des plus importants établissements de l'université Marienne Ngouabi, est devenu désert. L'herbe commence à gagner du terrain. La cohue des étudiants est aujourd'hui remplacée par des chants des oiseaux. Dans cet univers perdu, quelques usagers de l'administration scolaire sont quand même reçus par le service minimum.
Ce matin, je suis venu pour retirer l'attestation de fin de cycle universitaire. Quand même, on m'a reçu et je pourrais retirer ça la semaine prochaine, mardi, j'espère.
Les étudiants expriment ici leur amertume.
Ça dérange, ça fait 3 mois, on est à la maison, les choses roulent au ralenti. On attend même les rattrapages, on n'a pas encore fait ça, donc.
On a certains qui sont au village, là ils sont en train de faire des chants. Et c'est pas aussi trop avantageux pour nous parce que lors des sessions, on s'apprête plus, on lit plus nos leçons, bon, on va perdre certaines notions.
Les étudiants finalistes, eux, sont inquiets pour leur avenir.
Cela a une conséquence sur la crédibilité des diplômes que nous obtenons à l'université Marien Ngouabi. Parce que les gens vont se poser la question, s'ils sont régulièrement en grève, est-ce qu'ils accomplissent quand même la masse horreur requise pour valider un diplôme ou un cycle?
Quant aux enseignants qui maintiennent leur mouvement de greffe, il n'y a pas de miracle à faire. Ils ont déjà trop fait de sacrifices. Professeur Mété.
Jusque-là, ils n'ont pas de proposition à faire. Sinon, nous demander de faire le bénévolat. Ouvrez, faites des inscriptions, faites les concours bénévolement. Qui au jour d'aujourd'hui accepterait de travailler bénévolement alors qu'on a des charges? On n'est pas fermé, on n'est pas catégorie. La balle est dans le camp du gouvernement.
Interrogé sur la question, le ministre de l'Enseignement supérieur appelle les enseignants à comprendre la situation générale du pays et à revenir à l'université. Bruno Jean-Richard Itois.
Elle est en grève, on connaît les raisons. La conjoncture est difficile. Il y a quelques arriérés de salaire qui c'est pénible. Ils ne sont pas les seuls, malheureusement. L'année n'est pas encore en péril parce que j'entends commencer à dire l'année, non. Elle n'est pas du tout en péril, mais nous allons continuer à dialoguer avec les syndicalistes, avec les travailleurs, et j'espère que nous pourrons les convaincre, moyennant quelques efforts que le gouvernement peut faire.
Gabriel Bissanga, président du syndicat des agents de l'université, explique pourquoi, depuis le 7 septembre, les enseignants observent une grève illimitée.
Nous accumulons 6 mois de salaire impayé. Nous avons les heures complémentaires et supplémentaires d'encadrement de thèse et mémoire, et puis nous voulons être payés comme les autres fonctionnaires. On n'a jamais commencé des discussions franches avec monsieur le ministre. C'est déplorable, tous les travailleurs de l'université sont indignés. C'est des propos purement mensongers. Il n'y a pas de négociation.
Après près de 3 mois de grève, Marienne Ngouabi reste fermée et personne ne sait quand les cours reprendront ici. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
L'Union africaine a adopté dimanche plusieurs réformes visant à rationaliser l'organisation continentale et à obliger les États membres à respecter leurs obligations financières lors d'un sommet extraordinaire à Addis Abeba. Nathalie Barge.
Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine, a salué les progrès réalisés lors de ce sommet, malgré le rejet de certaines de ses propositions de réforme qu'il avait dévoilées l'an dernier suite à la demande de l'Union africaine, l'ayant chargé de remanier l'organisation continentale, souvent considérée comme inefficace et trop dépendante des donateurs. La majorité des 55 États membres ont rejeté son projet de donner au patron de la Commission de l'Union africaine le pouvoir de nommer ses propres adjoints et commissaires afin de rendre l'administration plus responsable devant son chef. Le sommet a soutenu les mesures visant à rationaliser l'organisation panafricaine tout en générant des recettes auprès des États membres et en sanctionnant ceux qui ne versent pas leurs contributions. L'Union africaine a également accepté de réduire le nombre de ses commissions de 8 à 6, la paix et la sécurité fusionnant avec les affaires politiques et le commerce et l'industrie avec les affaires économiques, a dit devant la presse le président de la commission Moussa Faki Mahamat. L'Union africaine dépend des donateurs étrangers qui paieront l'an prochain 54% d'un budget total de plus de 680 millions de dollars.
Un responsable de l'ex-rébellion Touareg dans le nord du Mali, membre d'une unité mixte formée notamment de soldats et d'ex-rebelles, a été assassiné dimanche à Tombouctou, 2 semaines après le difficile démarrage du processus de désarmement et de démobilisation DDR. Moulay Touami, c'est son nom, a été assassiné dimanche à Tombouctou par des terroristes dans le quartier Abaradjou, a déclaré à l'AFP une source sécuritaire malienne. Vous suivez VOA Afrique. Des pourparlers sur la Syrie réuniront les 28 et 29 novembre à Astana des émissaires de l'Iran, de la Russie et de la Turquie pour discuter notamment de la situation à Idlib, a annoncé ce lundi les autorités kazakhes. Parrainées par la Russie et l'Iran, alliés du régime syrien ainsi que la Turquie, soutien des rebelles, le processus d'Astana réuni depuis janvier 2017 sans implication de Washington, les représentants de Damas et une délégation de l'opposition. Il a éclipsé les négociations parrainées par l'ONU, incapable de trouver une solution à la guerre qui a fait plus de 350 000 morts depuis 2011. L'Union européenne a commencé aujourd'hui à examiner à la loupe l'accord de divorce négocié avec Londres, cible de virulentes critiques du Royaume-Uni, donnant le coup d'envoi d'une ultime semaine de négociations avant un sommet exceptionnel dimanche à Bruxelles. Appelé par ses détracteurs à renégocier l'accord provisoire conclu avec l'Union européenne, la première ministre britannique Theresa May a annoncé qu'elle se rendrait à Bruxelles dans la semaine pour rencontrer notamment le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. La possibilité d'étendre la période de transition post-Brexit, pendant laquelle le Royaume-Uni restera de fait dans le giron de l'Union européenne, fait partie des seuls points encore ouverts aux discussions concernant les modalités du divorce. Une réunion au sommet s'ouvre à partir de ce lundi à La Haye, les grandes puissances mondiales se rassemblant à l'occasion de la 23e conférence des États parties de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OIAC. Il s'agit de la première conférence du genre depuis qu'une majorité de 193 États membres a voté en faveur du renforcement des pouvoirs de l'OIAC en juin, l'autorisant ainsi à désigner l'auteur d'une attaque chimique et non plus seulement à documenter l'utilisation d'une telle arme. En Floride, ici aux États-Unis, le gouverneur républicain Rick Scott l'a emporté face au démocrate Bill Nelson lors d'une élection sénatoriale particulièrement disputée qui s'est achevée par un dépouillement manuel. Nathalie Barge.
Selon les résultats définitifs en Floride, Rick Scott a emporté 50,05% des suffrages, soit un avantage d'un peu plus de 10 000 votes face aux sénateurs sortants. Si les républicains étaient déjà assurés de conserver le contrôle de la Chambre haute, cette victoire dans ce grand État du Sud leur offre une majorité plus confortable. Bill Nelson, qui était sénateur de Floride depuis 17 ans, a concédé sa défaite avec élégance, a indiqué Rick Scott dans un communiqué. Le candidat démocrate au poste de gouverneur, Andrew Gillum, a lui aussi concédé sa défaite samedi face au républicain Ron DeSantis. Ces annonces mettent fin à un imbroglio électoral qui rappelait le rôle crucial joué par la Floride pour départager George Bush et Al Gore lors de la présidentielle de 2000. Le processus avait finalement été arrêté par la Cour suprême. Le républicain Bush avait battu le démocrate Al Gore par 537 voix et remporté la présidentielle.
Merci Nathalie. Et pour terminer, le Cambodge n'autorisera pas de base militaire étrangère sur son sol, a déclaré aujourd'hui le Premier ministre Hun Sen en réaction à une lettre du vice-président américain Mike Pence faisant état de ses préoccupations sur l'établissement d'un éventuel site naval chinois dans le royaume. D'après des informations de presse, Pékin fait pression pour établir un port qui pourrait également lui servir de base navale à Koh Kong dans le sud-ouest du Cambodge. Les États-Unis autrefois puissance militaire incontestée de la région, craignent qu'une éventuelle base chinoise à Kokang menace encore davantage l'équilibre régional. Jean-Roger Billon, le prochain journal dans 50 minutes avec Henri Francis.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.